Guillaume Daret, vous êtes nos invités. Guillaume Daret, vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Olivier Perroux, bonjour. Vous êtes journaliste politique à l'Express, chargé du suivi de la gauche. En une de l'Express cette semaine, comment Macron joue son va-tout. Et puis vous êtes l'auteur de Autopsie du cadavre, c'est chez Fayard. Et enfin, Hugo Capelli, vous êtes journaliste au service politique de France Télévisions en charge du suivi de la gauche. Merci de beaucoup participer à cette émission en direct. Donc la mobilisation contre la réforme des retraites pourrait-elle paralyser le pays? La CGT pétrole menace de bloquer les raffineries. Les syndicats de la SNCF et de la RATP ont appelé eux à une grève puissante. Et puis les fonctionnaires, les enseignants sont aussi mobilisés. Sujet de Catherine Rougerie, Philippe Lagone et notre bureau de Marseille.
Et si ces images de station-service à sec, deux trains annulés, se reproduisaient dans quelques semaines? Un scénario que les syndicats n'excluent pas si le gouvernement maintient sa réforme des retraites. Dans le secteur pétrolier, la CGT a lancé un premier arrêt de travail de 24 heures le 19 janvier, puis de 48 heures le 26 janvier et de 72 heures le 6 février. Une grève reconductible qui pourrait, au bout de plusieurs jours, conduire à des problèmes d'approvisionnement en carburant.
Nous, on ne vise pas la paralysie. Nous, on applique notre droit de grève, qui est le seul droit constitutionnel qui nous permet de montrer notre mécontentement dans des lois comme ça qui sont scandaleuses. Donc ensuite, les conséquences d'un éventuel mouvement, c'est le gouvernement, dans son entêtement, qui l'assumera.
Énergie, fonction publique, station de ski, Quai d'Orsay pour la première fois, transport. Dans ces secteurs, les syndicats s'organisent et les Français, eux, se préparent plus ou moins résignés.
Je me suis organisée, je prends une journée congé.
Vous n'allez pas travailler?
Je ne vais pas travailler.
Je me suis organisée de la façon à faire du télétravail et de planifier mes rendez-vous en distanciel et pas en physique malheureusement.
Même s'il doit y avoir des blocages, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse se mobiliser tous. Pour ceux qui peuvent le faire, en tout cas, c'est important.
Dans l'éducation nationale, certaines écoles pourraient rester fermées, selon les premiers recensements de ce syndicat.
Le 19, je vous l'assure, vu les remontées de terrain, sera massif. Il y aura beaucoup de collègues dans le monde de l'éducation et dans la fonction publique, en grève et dans les manifestations.
Elisabeth Borne appelle les syndicats à la responsabilité.
Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français.
Le 19 janvier aura valeur de test pour le gouvernement comme pour les syndicats.
Alors Guillaume Daret, les menaces de pénurie d'essence sont ultra efficaces parce que déjà, dans les stations-service, on commence à voir des queues se former en prévision de possibles pénuries.
Et on voit d'ailleurs que face à cela, la volonté du gouvernement, c'est d'essayer de rassurer les Français. J'entendais ce matin, avant de venir, Agnès Pannier-Runacher sur France Info, justement, qui disait « mais il n'y a pas de mouvement de grève dans les raffineries, c'est pas ce qui s'est passé au mois d'octobre qui va se reproduire ». Donc il y a une volonté d'essayer de dégonfler les choses. Après, j'ai trouvé qu'en matière de communication, ce qui a été fait mercredi à l'issue du Conseil des ministres était peut-être pas très malin. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a été interrogé sur l'ampleur de la mobilisation, a dit, je cite, que le gouvernement n'anticipait pas une mobilisation d'une grande ampleur. J'allais dire que pour motiver les syndicats et tous ceux qui s'apprêtent à faire grève la semaine prochaine, il n'y avait peut-être pas mieux à faire.
Parce que Olivier Perroux, le gouvernement le dit, il ne craint pas les manifestations. Ce qu'il craint, ce sont les grèves surtout. Enfin, c'est surtout les grèves.
Oui, il y a un peu un alignement des planètes, si j'ose dire. Votre reportage le montait très bien. Énergie, transport, école. Ça, c'est quelque chose qui fait peur au gouvernement et ils ne peuvent pas le dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça parce que sinon, on va justement motiver les grévistes. Mais si dans l'énergie, il y a des grèves et des blocages, on a des risques de pénurie qui vont arriver très vite. On sait qu'aujourd'hui, ça vient très vite, les risques de pénurie. Si en plus, il y a les transports déjà qui sont très, très tendus, notamment en Ile-de-France, et en plus, on rajoute l'école, c'est-à-dire que les Français ne pourront forcément pas déposer leurs enfants à l'école, donc ils vont devoir les garder à la maison. On va avoir une situation assez compliquée à gérer pour le gouvernement. L'idée est quand même de se dire que le 19, ce sera un rendez-vous clé. On va compter évidemment le nombre de gens dans la rue et s'il y a déjà des blocages. La question est de savoir surtout, c'est si ça va être perlé, comme on dit, si ça va continuer dans le temps et jusqu'à quand. Parce qu'on le sait aussi, plus une manifestation dure dans le temps, moins elle est populaire.
Alors, mais justement, Hugo Capelli, on a entendu aussi dans le reportage une jeune femme dire « Oui, mais au fond, ils ont raison. Et bon, bah, c'est dur, on va être bloqué, mais c'est pour la bonne cause. » La grande différence avec le mouvement de novembre, c'est que d'ailleurs que le gouvernement a dit « Oui, mais ce sont des salariés qui gagnent 5000 euros par mois. Là, c'est un combat, comment dire, auquel les Français adhèrent bien plus volontiers que de garder la retraite à 62 ans.
Oui, et moi je l'ai ressenti cette semaine parce que vous savez, il y avait les premiers meetings organisés cette semaine par la gauche, par la NUP, et donc il y a des Français qui sont rendus à ces rendez-vous, à ces premiers meetings, il y en aura d'autres par la suite, et je me suis un petit peu baladé pour aller un petit peu rencontrer les uns et les autres. Il y avait notamment des soignants, il y avait aussi des professeurs des écoles qui me disaient, mais nous on est prêts à faire grève plusieurs jours, plusieurs semaines s'il le faut. Enfin, on a senti cette volonté. Après, évidemment, ce sont des sympathisants qui étaient là, des sympathisants de gauche, pas forcément... Ils ne représentent pas forcément l'ensemble des Français, mais en tout cas, ils avaient cette volonté-là d'aller motiver les Français à les suivre et à dire on va fermer les écoles pour faire en sorte que le mouvement prenne une ampleur considérable et que le gouvernement recule, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la seule façon de faire plier le gouvernement avec cette réforme des retraites.
Et ben justement, je vous propose d'écouter dans le secteur privé un cariste de 55 ans. Il dit ne jamais avoir participé à aucun mouvement social. Ben cette fois-ci, il a bien envie d'y aller. On l'écoute.
J'ai jamais pensé à manifester ou quoi que ce soit. J'ai toujours tout payé, j'ai jamais râlé, rien. Mais là, c'est vraiment... Là, je suis pas content. J'exclus pas que ça puisse arriver de descendre pour la première fois dans la rue. Ouais.
Olivier Perroux, il y a ce sondage pour l'Institut Montaigne. 93% des actifs sont contre un relèvement de l'âge légal de départ. C'est puissant comme rejet.
Il y a ce que, pour une fois, j'ai envie de dire, il y a ce que disent les sondages et il y a ce que nous, on voit dans nos reportages et quand on va justement, soit dans les rassemblements des meetings, et ce qu'on nous dit, et finalement, ça recolle vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fatigue, il y a une vraie opposition qu'on entend, pas que chez les sympathisants de gauche ou une certaine partie des sympathisants du RN contre cette réforme des retraites, et en particulier l'âge de départ qui est décalé. Pourquoi ? Parce que la retraite, c'est un totem. C'est-à-dire que des manifestations en France, on le sait, il y en a beaucoup, mais les retraites, les batailles contre les retraites, eh bien, c'est un peu des totems de manifestations dans l'histoire du pays, dans l'histoire sociale, et à chaque fois, ça rassemble beaucoup de monde. On peut se souvenir de 2010, même s'il y avait beaucoup de monde, même si à la fin des fins, le projet est passé. On se souvient évidemment d'autres réformes dans le passé, mais à chaque fois, il y a beaucoup de monde dans la rue. C'est un
ça doit d'ailleurs nous interroger sur le rapport qu'on a au travail, si à ce point, partir en retraite est vu comme un objectif ultime, une sorte de paradis, quoi. Horizon libérateur l'asservissement du travail.
Alors c'est là où est tout le piège, je ne sais pas si on peut dire le piège, mais on dit souvent « je cotise pour ma retraite », c'est pas vraiment ça, on cotise pour la... Il y a tout ce système de solidarité qui fait que les retraites en France, c'est quelque chose, c'est un totem, c'est quelque chose... Il est très difficile de réformer. Rocard disait sous Mitterrand qu'une réforme des retraites pouvait faire sauter 5 à 6 gouvernements.
Moi, j'ai le sentiment, Guillaume Darré, qu'on est au moment, en fait, comme on le voit souvent, juste avant les élections la dernière semaine, un peu de cristallisation. C'est-à-dire que les Français savaient bien qu'il allait y avoir une réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron avait cette volonté de repousser l'âge de départ légal à la retraite. Mais je pense que tous autour de cette table, ces derniers jours, on a rencontré des gens parmi nos proches, nos amis, nos familles, qui commence juste à se plonger dans le détail de la réforme et se dire « Ah mince, en fait, je suis concerné » ou « Tant mieux, j'y échappe ». Et donc, c'est à ce moment-là où aussi on va voir peut-être pas l'ampleur de la mobilisation, parce que c'est pas forcément des gens qui descendront dans la rue jeudi prochain, mais en tout cas, une forme de mécontentement et, comme on dit, de grève par procuration. Et ce qui est intéressant aussi dans les toutes dernières études d'opinion qui sont parues hier, je crois que c'est Odoxa qui en a réalisé une notamment, on voit que les Français soutiennent majoritairement le mouvement social qui s'annonce, mais un peu moins que celui des Gilets jaunes à l'époque, et que dans ce bras de fer, comme souvent, qui s'annonce entre le gouvernement et les syndicats, quoi qu'il arrive, le gouvernement est perdant. C'est-à-dire, quand Odoxa interroge les Français en disant « si ça dure, si ça bloque, pour vous, qui en sera responsable ?» Pour les Français, c'est le gouvernement.
Ce sera le gouvernement. Hugo Capelli, c'est vrai que le gouvernement n'avait peut-être pas anticipé le rejet de sa réforme, sachant qu'il y est allé fort, parce que toutes les générations sont embarquées. Enfin, je rappelle c'est-à-dire toutes les générations nées après 61. Bah, quand on est né après 61, comme on est en 2023, ça veut dire qu'on a 62 ans. C'est ce que disait Fabien Roussel. Si vous prévoyez d'organiser un pot de départ l'été prochain, bah, hop, c'est fini. Il faudra le reporter. Tous les actifs sont concernés, sans exception, par cette réforme.
tout le monde est concerné. Ce qui sera intéressant de voir, ce sera l'ampleur de la grève, en fait, plus que de la mobilisation dans les rues, puisqu'on voit, notamment chez les jeunes, aujourd'hui, c'est pas forcément par la manifestation qu'on veut montrer son mécontentement. Ça peut se faire sous différentes formes. Ça peut être à travers les réseaux sociaux. Il y aura aussi d'autres manifestations organisées le samedi par la gauche. Mais en effet, on sent petit à petit qu'il y a quelque chose qui monte, puisque tout le monde s'en rend compte. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des premiers meetings qui étaient organisés par la gauche. On a vu qu'il y avait déjà du monde, il y avait aussi beaucoup de curieux qui étaient là, il y avait la queue devant la salle, tout le monde n'a pas pu rentrer. Donc on sent petit à petit qu'il y a effectivement cette prise de conscience des Français que oui, cette réforme, elle est là, elle va concerner tout le monde, même pour les actifs qui sont proches de la retraite et qui se disent, bah, tiens, je vais devoir rester 2, 3, 4 mois de plus au travail. Et ça, je n'avais pas forcément envisagé.
Olivier Perroux, on parlait des jeunes qu'on disait finalement peu, je veux dire, très éloignés des syndicats. Est-ce que pour les syndicats, là, c'est quand même un moment de se refaire et de montrer, y compris aux jeunes, que oui, ils sont en capacité de changer votre quotidien et par leur action, de faire en sorte que vous ayez une vie plus douce.
Alors, c'est tellement un objectif pour les syndicats que lundi, la nouvelle chef d'Europe Écologie Les Verts organise une réunion entre Philippe Martinez et les militants de Dernière Rénovation. Donc on a les militants écologistes de Dernière Rénovation. Donc on a deux mondes qui se rejoignent, le syndicalisme traditionnel, historique de la CGT et cette nouvelle forme justement de militantisme, de blocage. On a pu le voir, Dernière Rénovation, c'est des gens qui ont bloqué le périphérique parisien, qui ont fait des actions coup de poing ci et là.
Qui étaient plus donc sur des combats écologiques.
Exactement. Donc il y a une volonté pour les partis de gauche d'être une espèce de jonction entre les nouvelles formes de militantisme et les vieilles formes, si je peux le dire ainsi. Il y a une troisième question, c'est les mouvements qui s'organisent par eux-mêmes. On l'a vu lors des manifestations, enfin lors des grèves de la SNCF avant Noël, ça a un peu échappé à la CGT. C'est-à-dire que c'est des grèves qui sont organisées par elles-mêmes, des blocages qui sont organisés par eux-mêmes, sans que la CGT ne maîtrise grand-chose. C'est un peu l'inconnu aussi de ces manifestations et des mouvements sociaux qui arrivent. C'est à quel point nous allons avoir une espèce de, j'aime pas cette expression, mais gilet jaunisation, c'est-à-dire que des gens qui ont décidé de faire grève alors qu'ils ne le font jamais et qui sont parfois, au fil des manifestations, un peu plus jusqu'au boutiste que le syndicaliste traditionnel.
Alors justement, Guillaume Daré, on sait qu'à un moment, le gouvernement avait l'espoir de dire peut-être qu'on pourrait rattraper par la manche Laurent Berger, mais étant donné cette radicalisation de la base, notamment des militants CFDT, est-ce que le gouvernement est en train de perdre tout espoir de se dire non, les syndicats, en l'occurrence Laurent Berger, on l'a perdu, jamais il ne nous viendra en aide.
Je crois qu'ils ont fait finalement au sein du gouvernement, et on en parlera probablement plus tard dans cette émission, le choix d'un accord politique avec la droite plus que le choix d'un accord social avec la CFDT. Après, il faut reconnaître à Laurent Berger une forme de cohérence, au-delà même d'une éventuelle radicalité nouvelle de sa base. Ça fait des semaines, voire des mois, qu'il prévient le gouvernement et qu'il a dit, de toute façon, quelles que soient les mesures positives, peut-être en termes de prise en compte des carrières longues, de prise en compte de la pénibilité, le principe même du report de l'âge légal de départ à la retraite, la CFDT y est opposée. Et ça aura beau être 64, 65 ans, ça ne changera rien. Si le mardi 10 janvier, Elisabeth Borne annonce un report de l'âge de départ à la retraite, nous serons au rendez-vous de la mobilisation. Et c'est ce qui se passe là. Et on voit clairement que ça illustre un petit peu ce qu'on voit sur cette réforme des retraites, le rendez-vous manqué entre Emmanuel Macron et Laurent Berger, entre Emmanuel Macron et la CFDT.
Ils ne s'aiment pas tous les deux.
Oui, et ça, pas que depuis 3 mois, je veux dire depuis 5 ans. J'ai l'impression qu'au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y avait quand même toute une partie du monde syndical, et en particulier évidemment la CFDT, qui a cru à Emmanuel Macron. En tout cas, qui s'est dit, ce ministre de l'économie, venu un peu de nulle part, finalement c'est peut-être celui qui va réaliser des choses hors des partis, hors des sentiers habituels, et on va pouvoir toper avec lui. La première réforme envisagée des retraites, la réforme à points, était très inspirée évidemment par ce que voulait faire la CFDT. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et les tensions depuis se sont succédées, effectivement, entre le patron de la CFDT et Emmanuel Macron, qui ne se sont jamais vraiment compris.
Il y a une image qui ne ment pas sur ce que vous venez de dire. C'est que celui qui prend la parole lors de l'intersyndicale, c'est Laurent Berger.
Et Philippe Martinez est en retrait.
Exactement. C'est du jamais vu, quand même.
Ouais. Donc même lui, là, il est décidé à aller jusqu'au bout.
C'est un signe. L'intersyndicale réunie dans son complet, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et que ce soit le syndicat réformiste qui, justement, prenne la parole et lance l'appel, c'est quand même inédit.
Avec un ton très martial, oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que le gouvernement ne craint pas une, une agrégation des colères qui donnerait un mouvement plus explosif, une gilet jaunisation du mouvement. Samedi dernier, les gilets jaunes ont essayé de rallumer la flamme. Vous allez le voir. En tous les cas, ils étaient bien contents de se retrouver sur les ronds-points. Sujet de Aurélie Schiller.
On va dans les rues de Pau, on s'arrête à des points précis pour faire passer des messages.
Les gilets jaunes, à nouveau dans la rue ce samedi. Face aux mesures insuffisantes prises par le gouvernement, l'appel à la mobilisation était très attendu.
Ça fait longtemps que je voulais revenir. J'attendais le déclenchement.
Nous, on est là pour défendre nos droits, pour se battre surtout pour nos enfants, hein, pour la liberté, contre cet État là qui est en train de nous mettre, on ne va pas dire qu'il va mettre une douille, mais bon, qui nous met la pression.
Des points de rendez-vous donnés aux quatre coins de la France, comme ici sur ce rond-point près de Besançon. L'ambiance reste bon enfant, malgré la colère de ce début d'année. Objectif, protester contre la réforme des retraites, l'inflation, mais aussi contre l'utilisation du 49-3 par le gouvernement.
Moi, je suis là en grande partie parce que le gouvernement n'a répondu à aucune de nos attentes et s'est contenté de faire qu'une chose, de la répression.
On avait alerté depuis un moment que même justement tout le tissu social allait être impacté, et c'est le cas. Et à un moment, il faut s'unir justement pour dénoncer cette politique qui est en train de casser notre modèle social.
En Normandie aussi, les ronds-points reprennent de la couleur. Les gilets jaunes restent plus que jamais déterminés.
Ça fait 4 ans déjà qu'on se mobilise, mais on voit que rien ne change. Là, le mois de janvier 2023, je pense que beaucoup de Français vont s'en souvenir.
Ces rassemblements pourraient être le point de départ de nouvelles manifestations hebdomadaires et l'appel à la grève générale.
Hugo Capelli, on a entendu une dame dire « on est là pour mes enfants ». Comme si derrière cette gilet-jaunisation, ces mouvements, il y avait cette crainte d'un déclassement. Et finalement, la réforme des retraites qui fait que on repousse l'âge de départ, fait que vous avez plus de chances de vous retrouver en chômage en fin de carrière. C'était la cerise sur le gâteau, pardon.
Oui, et ce sentiment de déclassement qui est peut-être ressenti par les catégories les moins aisées, mais aussi peut-être par les classes moyennes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est presque étonnant que ce mouvement des Gilets jaunes n'ait pas repris un peu plus tôt, ou du moins qu'il n'ait pas gardé une certaine ampleur, parce que finalement, on assiste depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à une augmentation du coût de la vie qui concerne tous les secteurs. Ça va aussi bien de l'essence à l'alimentation, aux factures EDF. Bref, tous les secteurs sont concernés. Donc c'est là où on peut se dire, mais c'est étonnant, pourquoi est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas finalement repris plus d'envergure? Alors ça s'explique parce qu'on a effectivement vu ces dernières années, la façon dont ça s'est passé, ces manifestations qui ont parfois été très violentes. Et d'ailleurs, quand on va parler là aux Français récemment sur le contexte actuel, leur crainte, c'est de retourner dans ces manifestations et qu'il y ait des violences. C'est aussi pourquoi tout à l'heure, je vous évoquais des manifestations un petit peu différentes de peut-être de ce qu'on a vu jusque-là, qui se verront chez les jeunes avec peut-être les réseaux sociaux, parce que parfois il y a la crainte de retourner dans ces cortèges parce qu'il y a eu de la violence et parce que ça a marqué les esprits.
C'est vrai que là, les gilets jaunes peuvent avoir des formes un peu de kermesse par moment, mais vous avez raison, par moment ça va terminer sur de la violence. On se souvient évidemment des affrontements avec les forces de la police. Et d'une façon générale, les manifestations, maintenant, sont de plus en plus l'objet de cortèges chahutés, notamment en fin de journée, avec des black blocs qui, par moments... Et ça peut faire peur, ça aussi, non ?
Ça fait peur. C'est pas uniquement lié aux gilets jaunes. Je pense que ça remonte le point de départ de ces manifestations tendues. C'était la loi El Khomri en 2015. On se souvient, c'est extrêmement violent sur la fin dans la rue. Donc il y a un effet progressif justement de ces manifestations qui dégénèrent avec les mouvements Black Bloc. Sur les gilets jaunes, on l'a vu, il ne faut pas l'oublier, que ce n'était pas le nombre qui faisait entre guillemets la force. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, les gilets jaunes, à manifester dans Paris. Et pourtant, ils ont bloqué Paris, ils ont entre guillemets retourné Paris. Ça a été très difficile pour les forces de l'ordre, on se souvient. Ils sont quand même approchés très près de l'Élysée. Ça a toujours été une musique un peu sourde, les gilets jaunes. Certes, ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils...
En tous les cas, ils ont fait peur au gouvernement.
Ils ont fait peur au gouvernement, ils n'étaient pas si nombreux. Ils sont toujours là depuis. Enfin, pendant les fêtes, on était tous un peu chez nous. Moi, je suis rentré en Bretagne dans mes terres malouines. Il y avait des gilets jaunes. Ils étaient 4, 5, 6, mais tous les jours, il y avait 5, 6 gilets jaunes sur 2, 3 ronds-points. Ils sont toujours là depuis 2019 et même avant. Et ils resteront. Donc la question est de savoir, Est-ce qu'ils vont réussir à mobiliser? Il faut se souvenir aussi qu'ils étaient peu nombreux à lancer l'appel et au final, ils se sont retrouvés plusieurs milliers dans la rue.
Guillaume Darrey, sondage IFOP. 79% des Français considèrent que le pays peut connaître une explosion sociale du type gilet jaune et 52% la souhaitent. Il y a les ferments qui sont là.
Il y a les ferments, mais encore une fois, ce qu'on disait, c'est la différence entre la volonté et le souhait de mobilisation et la traduction dans les faits et le passage à l'acte. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a je crois que c'est Jérôme Forquet de l'Institut IFOP qui, la semaine dernière, posait la question d'une fatigue et d'une apathie citoyenne. C'est-à-dire, oui, il y a un ras-le-bol, il y a une usure générale d'une grande partie des Français, mais est-ce que ça se traduit par une mobilisation active de ces Français ou est-ce que, peut-être pire, effectivement, il y a une forme d'apathie de gens comme autre sondeur qu'on connaît bien ici, Brice Teinturier, qui avait décrit une partie des Français, vous savez, comme les praphistes, les plus rien à foutre, il avait écrit dans son livre. D'ailleurs, de toute façon, tout ça ne nous concerne plus. Et même la mobilisation sociale ou citoyenne, nous ne serons pas entendus. Mais c'est vrai que de ce côté-là, même s'ils ne veulent pas le dire publiquement, et en particulier, effectivement, du côté du ministère de l'Intérieur, ils regardent avec intérêt comment ça se passe, et en particulier, effectivement, sur les mouvements de mobilisation parallèles. Parce que, rappelez-vous, les gilets jaunes, effectivement, comme le disait Hugo, c'était hors des syndicats traditionnels. Moi, je me rappelle, on était en déplacement avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, en Nouvelle-Calédonie, quand on a vu apparaître sur les pages Facebook et autres la vidéo de Jacqueline Mourot. On disait, mais qui est Jacqueline Mourot? Et qu'on a vu monter 200 000, 500 000, 1 million de vues. Et là, on se dit, il se passe quelque chose. Et le ministère de l'Intérieur explique que depuis plusieurs mois et depuis les Gilets jaunes, il y a tout un système de veille de plus en plus important et de surveillance, en tout cas, de tous ces groupes Facebook. C'est comme ça. Alors, c'était un autre domaine et un autre sujet. Le ministère des Transports vous explique que c'est notamment comme ça qu'a été débranché dans un premier temps avant d'être mis en place. Vous savez, le contrôle technique pour les deux roues. C'est-à-dire que la mesure a été annoncée et très vite, ils ont vu, par exemple, sur Facebook et sur effectivement tous ces groupes de mobilisation de motards qu'il y avait un mécontentement général qui était en train d'exploser. Et très vite, ils ont dit on arrête tout.
Alors justement, les syndicats seront-ils capables de faire reculer le gouvernement avec la manifestation de jeudi prochain, comme ils l'ont fait, évidemment, en 1995 ça reste la dernière grande victoire syndicale, donc des syndicats qui ont réussi à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Je vous propose on a retrouvé cette archive qui date du 12 décembre 1995, et vous allez voir ô combien la France était différente à l'époque. Retour donc sur les grandes grèves de 1995.
Pour leur 7e manifestation parisienne, les syndicats avaient vu grand. République Nation, en passant par Bastille, un parcours long de 4 km qui s'est pourtant vite avéré trop court. Dès 11h, les manifestants envahissent la place de la République, noire de monde, et tous les boulevards et rues adjacents. En tête, les leaders syndicaux, Marc Blondel, Louis Vianney, la FSU, la FEN, et juste derrière, à la place d'honneur, les cheminots. Très remarqués par leur nombre et leur feu d'artifice, les cheminots étaient suivis d'un cortège aussi imposant de la RATP, puis des postes, des télécoms, des enseignants venus en masse. Il y avait aussi des banderoles CFDT et des salariés du privé, Renault, Citroën, Rhône-Poulain ou Snecma.
Il y a un recul, mais qui n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'on est dans la rue.
Et là, j'irai jusqu'au bout, parce que c'est des choses qui nous ont été acquises par nos parents et qu'on doit transmettre à nos enfants.
Et au fur et à mesure que le flot des manifestants s'écoulait vers Nation, avec un seul mot d'ordre, retrait du plan Juppé, les leaders syndicaux appelaient à poursuivre.
Le jeu est entre les mains du Premier ministre. Où il s'obstine, il maintient son plan, il ne discute pas. Et ça va durer, perdurer, non seulement en durée, mais on va amplifier.
Et déjà, un nouveau mouvement est annoncé pour la fin de la semaine.
Guillaume Darrey, on voit aussi qu'à l'époque, en 95, il y avait cette notion de progrès et que s'attaquer aux retraites, c'était mettre un coup d'arrêt à ce qui semblait naturel à l'époque. C'était qu'il y avait des acquis sociaux et que par la lutte, on en obtenait de nouveaux.
Oui, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le discours, et pas que du gouvernement, d'une partie des politiques, c'est finalement, alors, pour conserver une partie de ces acquis, il faut faire des sacrifices. En l'occurrence, travailler plus longtemps. On voit qu'effectivement, ce n'est pas le même discours et que là où effectivement, il y a désormais plus de 30 ans, hein, effectivement, donc quasiment 30 ans. Et bien, la logique était effectivement d'aller vers quelque chose de plus positif, de dire il faut que ça aille mieux. Là, aujourd'hui, effectivement, dans la logique générale qu'on constate depuis plusieurs années.
Si on veut garder notre petit bonheur.
Il faut essayer de sauver quelque chose.
Il faut essayer, voilà.
Il y a un peu une bataille, justement, sur ce côté sacrifice, parce qu'au meeting, justement, qu'a organisé François Ruffin en début de semaine, on y était avec Hugo, toute la gauche appelait un peu justement à cette mythologie historique des retraites. Il parlait d'Ambroise Croizat, qui est le ministre communiste, qui est le père de cette réforme, juste après la Libération. Donc, et voilà, il y a tout un travail sur justement
l'imaginaire
des luttes sociales et qui renaît aujourd'hui. On fait appel aux vieilles figures de la gauche, disparues de longue date. Je déjeunais avec Éric Coquerel qui nous parlait de 95, que c'était un remake des 95 qui allait se passer. Et au point d'en parler, de parler de dissolution, parce que la finalité de 95, c'est la dissolution de 97.
Sauf qu'on voit bien à l'époque, il y avait un sens du collectif. On parlait les syndicats, les enseignants, les salariés de la SNECMA, les salariés de Renault.
C'est marquant, c'est aussi toutes ces grandes entreprises privées, effectivement, qui sont présentes dans la mobilisation.
Aujourd'hui, c'est un peu plus chacun dans son couloir et chacun s'intéresse.
Et il faudra voir aussi le réveil syndical, finalement, qu'il y aura. Parce que quand on constate les manifestations de ces dernières années qui ont été organisées par les syndicats, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'était d'une ampleur aussi considérable qu'en 95? Je ne crois pas. Finalement, ceux qui arrivent presque à plus réunir aujourd'hui dans la rue, ce sont presque les partis politiques. On a vu les manifestations qui ont été organisées par la France Insoumise, d'autres partis qui les ont rejoints, des organisations de jeunesse. Bref, on n'a pas le sentiment, en tout cas, que les syndicats ont la main aujourd'hui sur voilà, on va réussir à amener tant de personnes dans la rue.
Ils ont perdu les plumes.
Ce sont peut-être plus les partis politiques. Donc, c'est pour ça que cette convergence qui a été tout à l'heure évoquée par Olivier est importante pour qu'ils arrivent finalement à quelque chose qui pourrait être aussi massif.
Eh bien, justement, les politiques seront-ils aider le mouvement syndical pour faire reculer le gouvernement? Je pense bien évidemment à Jean-Luc Mélenchon qui, sans surprise, hier soir, lors de l'émission L'Événement avec Caroline Roux, a dit tout le mal qu'il pensait de cette réforme des retraites. On l'écoute.
Je suis exaspéré de voir ces tentatives permanentes pour duper les gens, les enfumer. Les gens sont braves. Le gouvernement, les gens sont braves. Ils se disent, si ça ne marche pas, il faut qu'on fasse un effort. Alors on leur fait le coup une fois, deux fois, trois fois. Et puis au bout d'un moment, on finit par se rendre compte que tout ça, c'est de l'enfumage. Non, il n'y a pas de problème de financement du système des retraites. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, tous ceux qui font des grands pronostics se trompent continuellement. On nous avait annoncé 10 milliards de déficit pour 2021. Il y a 2,7 milliards d'excédents. On nous avait annoncé 10 milliards pour cette année. Il y a 3 milliards.
Alors, Jean-Luc Mélenchon qui est contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a un jeu qui s'instaure entre la France Insoumise et les syndicats? Sous-entendu, la France Insoumise essaierait de voler la vedette aux syndicats et d'être en pointe sur ce dossier et cette lutte contre la réforme des retraites.
En tout cas, Jean-Luc Mélenchon a essayé de faire ceci juste après les élections de l'ANUPS aux législatives. Il était sur un nuage, il pensait qu'il allait réveiller les masses sociales. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été très fan des syndicats. Surtout depuis que c'est la CFDT qui est devenue le premier des syndicats en France devant la CFDT. Donc il voulait imposer un rapport de force pour mobiliser les masses. Il n'a pas réussi, parce qu'on se souvient que alors je ne dis pas que les syndicats ont réussi non plus, mais la grande marche d'octobre qu'il a organisée, finalement, a rassemblé peu ou prou le même nombre de personnes dans la rue. Là, c'est un peu différent. Hier, dans l'émission L'Événement, Jean-Luc Mélenchon, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, et c'est peu dire quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui le fait quand même. Il a dit les syndicats, ce sont la clé de cette mobilisation, c'est eux qui instaurent le rapport de force. Je le cite. Donc aujourd'hui, justement, il ne veut surtout pas les brusquer, et tous les insoumis qu'on peut interroger en ce moment nous disent non, la date la plus importante, c'est celle du 19, c'est pas celle du 21 qui est la grande marche organisée. Et même
Par la France Insoumise.
Par les organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise.
Ils ont changé, justement. Ils ont changé de discours aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon se dédie un peu, dit non, mais ce n'est pas ma grande marche, même si ça porte le même nom qu'octobre, c'est organisé par les organisations de jeunesse. Mais le plus important, ça reste le 19. Il ne veut plus instaurer la confrontation parce qu'il a peur justement que chacun y aille dans son coin, comme vous disiez tout de suite, et que les masses se divisent en plusieurs marges de jour en jour.
Ouais. Guillaume Daret, juste un mot. Comment est-ce que les syndicats voient les politiques, comme un soutien ou comme un parasitage? On a l'impression que... Alors, déjà, Philippe Martinez a dit « Moi, je ne veux pas de banderole Rassemblement National dans les cortèges. Nous n'avons pas les mêmes valeurs », a-t-il dit hier soir.
Comme un parasitage, puisque je pense qu'effectivement, la France insoumise a été un peu contrainte et forcée de se plier au message qui est envoyé par les syndicats depuis plusieurs semaines, qui est « Laissez-nous gérer la mobilisation sociale ». C'est quand même le message qui est d'ailleurs publiquement passé par les syndicats. « Laissez-nous faire ». Ils peuvent s'associer en manifestant, effectivement. Mais n'en faites pas un combat politique, faites-en un combat social. Mais la question, effectivement, c'est plutôt qu'est-ce qui aujourd'hui, ces syndicats dits traditionnels, sont-ils aujourd'hui capables ou pas d'encadrer une mobilisation comme celle-ci, ou effectivement on est dans une mobilisation nouvelle, comme l'évoquait Hugo tout à l'heure.
Alors Hugo Capelli, est-ce que cette réforme des retraites, c'est un combat idéal pour ressouder un peu la France insoumise, qui est empêtrée, on le sait, dans l'affaire Quatennens et puis dans la fronde intérieure sur le management de Jean-Luc Mélenchon?
Ça paraissait mal engagé parce qu'il y avait certains à la France insoumise qui misaient tout sur la marche du 21 et puis d'autres qui disaient « Non, attendez, on va attendre de voir ce que vont dire les syndicats, quand est-ce qu'il y aura lieu cette marche ?» Ils ont été très critiqués, les insoumis, par leurs partenaires de l'ANUPS, que ce soit les socialistes, les communistes, les écologistes, tous disaient « Ils s'avancent un petit peu sur leur marche du 21, on ne va pas les soutenir, on va les laisser dans leur coin et nous on attend de voir ce que vont dire les syndicats. » Donc on va voir si ça va permettre à la France insoumise de resserrer les liens, mais quand on discute avec certains insoumis, ils ne sont pas forcément contents que la marche du 21 soit maintenue, parce qu'ils disent forcément s'il y a deux marches à 48 heures de différence, il y aura forcément de la déperdition, c'est-à-dire que certains vont aller à celle du 19 et n'iront pas à celle du 21. Donc est-ce que ça va vraiment resserrer les liens de la France insoumise? C'est pas certain, parce que le mal est assez profond sur l'affaire Quatennens. Jean-Luc Mélenchon s'est encore exprimé à ce propos hier. Il estime qu'il pourra faire son retour. Donc tout le monde n'est pas sur le même pied. Certains sont pour plus de démocratie en interne, d'autres non. Donc c'est pas cette réforme des retraites et ce mouvement qu'il y a derrière qui va pouvoir, je pense, leur permettre dans un premier temps de se retrouver. Ça se fera peut-être dans un second temps.
Alors, vous avez parlé de l'affaire Quatennens. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, a de nouveau apporté son soutien à Adrien Quatennens, estimant d'ailleurs qu'il avait payé pour ses fautes, qu'il avait reconnues. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
C'est un ami très cher pour moi, c'est absolument certain. Et je lui garde toute mon affection.
Il est revenu à l'Assemblée.
Oui, mais...
Il a eu raison.
Oui, bien sûr. À mon avis, hein, je n'engage que moi, hein,
oui.
À mon avis, oui. Les religions recommandent, quand il y a faute, surtout faute reconnue et faute punie, le pardon. Les républicains disent qu'une sanction, lorsque la peine est purgée, permet aux condamnés de se réhabiliter. Nous avons ce sur quoi on est tous d'accord, c'est qu'il faut combattre, et c'était dans mon programme, les violences. On était tous d'accord là-dessus, et je crois qu'on l'est encore. Deuxièmement, que quand quelqu'un ne se conforme pas à ça, il doit être puni. Adrien Quatennens a été longuement et beaucoup puni.
Olivier Perroux, sur la forme d'abord, un petit mot. Jean-Luc Mélenchon, le laïcard qui cite les religions en exemple en disant, vous voyez, une religion, il faut pardonner.
Mmh. Ah oui, c'est pour lui, celui qui était très républicain, presque anticlérical pendant de nombreuses années... Voilà,
s'est rapproché des religions avec une arrière-pensée derrière.
Il est avec une arrière-pensée évidemment politique, celle de soutenir Adrien Quatennens, qui faisait partie de ses héritiers, ses fils, sinon son fils prodige. Y a un vrai choc de génération sur ce sujet au sein de la France insoumise et de la gauche. Jean-Luc Mélenchon fonctionne comme un Mitterrandien, c'est-à-dire que François Mitterrand soutenait ses ministres envers et contre tout. Il disait que ce sont des amis et qu'on défend les amis. C'est comme ça. Il est né là-dedans, Jean-Luc Mélenchon, et il reproduit ça avec Adrien Quatennens. Le souci, c'est que l'autre partie de la France insoumise, qui était un mouvement assez jeune dans son fonctionnement, ses cadres et ses militants, n'acceptent pas cela. On est dans une époque MeToo qui n'accepte plus cela. Donc il y a un vrai hiatus entre Jean-Luc Mélenchon et, si j'ose dire, sa base sur le sujet Adrien Quatennens. Juste après l'émission hier, des centaines et des centaines de militants de la France insoumise ont dénoncé, alors étaient très contents de l'interview sur les autres sujets, etc., mais sur ce sujet précis, ils en veulent énormément à Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon qui est contesté en interne, hein, on l'accuse même d'avoir fait une purge, bah, il s'en est expliqué hier soir, même si vous allez le voir, il avait l'air très embarrassé, on l'écoute.
J'ai entendu parler de purge,
ouais.
Enfin qui a été purgé.
Pas une personne n'a
je
été...
Je vous donne leur nom. Raquel Garrido, Clémentine Autain, Alexis Corbière, François Ruffin. Ils ont eu le sentiment qu'il y avait une purge.
Pardon. Vous dites qu'ils ont été purgés de quoi?
Ils ont eu le sentiment qu'il y avait une reprise en main du parti et qu'ils étaient exclus des instances dirigeantes du parti.
Vous pensez vous parler à leur place, là? Pourquoi vous ne leur donneriez pas la parole pour me le dire?
On leur a donné la parole. Là, vous êtes face à moi. C'est l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé, peut-être de clarifier les choses.
Oui, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils restent unis, que ce n'est pas une bonne idée de dénigrer le mouvement, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une bonne idée d'aller appuyer ceux qui disent que ça n'est pas démocratique, parce que ça l'est.
Guillaume Daré, on le sent moins flamboyant, comme si son autorité avait été atteinte par ces accusations qui viennent de son camp et par l'affaire Quatennens.
Moi, je trouve qu'à la fois, on le sent atteint, et en même temps, on sent que derrière, notamment sur cette partie-là, sur la purge avec son sourire, il est un peu gêné, mais il assume en fait totalement le truc. Parce qu'il dit oui, bon, qu'ils viennent s'expliquer, tout ça. Mais il dit pas il n'y a pas eu de purge. Il dit pas que tout a été parfaitement démocratique. Moi, je trouve qu'il est un peu gêné aux entournures, mais que dans le fond, j'ai pas le sentiment de quelqu'un qui regrette fondamentalement. Il regrette le fait que les contestations en interne et dans les médias, effectivement, aient fait un peu de... aient posé problème à la France insoumise, mais j'ai pas le sentiment d'avoir quelqu'un qui regrette la décision qu'il a prise avec Manuel Bompard.
Hugo Capelli, on sait que Jean-Luc Mélenchon était le ciment de la NUP. Est-ce qu'un Jean-Luc Mélenchon affaibli fragilise la NUP et augure d'un parti socialiste qui reprendrait son indépendance? Enfin, comment vous voyez les choses?
Bon, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a aussi des élections en cours au Parti socialiste, bientôt au Parti communiste. On verra évidemment qui ressortira vainqueur de ces élections et gardera la tête de ces partis politiques. Jean-Luc Mélenchon est quand même un petit peu à l'écart. Et d'ailleurs, tous les députés vous le disent aujourd'hui. Il y a un intergroupe qui est là, qui fonctionne plutôt bien. La NUP s'entend et avance, sans pour autant aboutir aujourd'hui à une création d'un nouveau parti politique. Jean-Luc Mélenchon est toujours présent, et je pense que la position néanmoins qu'il prend sur Adrien Quatennens, par exemple, ne va pas beaucoup plaire à ses collègues socialistes.
Ça va faire du grabuche, son interview d'hier.
Je pense qu'il était peut-être attendu au tournant. En tout cas, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé sur cette affaire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Il y a eu la façon dont Adrien Quatennens a réagi lorsqu'il a été condamné, avec une double interview dans la presse régionale et sur une chaîne d'info en continu, qui ont été très très mal reçues par les communistes, par les écologistes, par les socialistes, qui estime que ça fait du mal au combat de la NUP contre les violences faites aux femmes, et qu'en reprenant à nouveau cette position de défense d'Adrien Quatennens, il a aussi dit hier que son retour à l'Assemblée était le bienvenu, alors qu'ils sont en train d'essayer de mener un combat contre la réforme des retraites. Donc ça montre effectivement, avec ce nouveau positionnement, qu'il ne va peut-être pas se faire des amis, en tout cas ceux qui n'étaient pas forcément très favorables à sa personne, ne vont pas se dire « Tiens, Jean-Luc Mélenchon est toujours notre leader naturel ».
Allez, on passe de l'autre côté de l'échiquier au Rassemblement national, où là aussi on s'oppose à la réforme des retraites, puisque Marine Le Pen, elle est favorable à la retraite à 60 ans, mais récemment, elle a ajouté quand même la condition d'avoir 42 annuités, ce qui fait que ça veut dire 62 pour... la majorité des actifs, au minimum. Et du coup, Robert Ménard s'amuse de ce revirement de Marine Le Pen en l'accusant même d'être démagogique. C'était hier sur France Info. On écoute Robert Ménard, le maire de Béziers, parler de Marine Le Pen.
Bien sûr, elle a changé, mais elle a changé sur plein de choses. Tenez, moi, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais ça fait des années que je lui dis la retraite à 60 ans, c'est n'importe quoi. C'est ça la démagogie, parce que c'est impossible, donc on arrête d'en parler. Avant, c'était la sortie de l'euro, avant la sortie de l'Union européenne, tout ça n'avait ni queue ni tête. Elle change. Attendez, moi, je me satisfais que les gens changent. Je ne suis pas pour être mieux qu'eux, je suis juste pour essayer de l'influencer. Mais la retraite à 62 ans, ce n'est pas plus crédible, parce que les choses ont changé. Moi, j'ai entendu, je ne sais plus quel leader du Rassemblement national, expliquer qu'elle était inutile, la retraite. Mais comment...
La réforme.
Comment tu peux dire ça? Moi, je suis sur la retraite. À 64 ans, je suis absolument pour.
Alors, Guillaume Daré, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement que Marine Le Pen, elle suit son électorat? On va voir le découpage selon les sympathisants. Au Rassemblement national, il n'y a que 18% des sympathisants du Rassemblement national qui soutiennent cette hausse de l'âge légal.
Alors elle soutient son électorat, et je pense aussi qu'elle veut profiter de l'accord politique qui est en train de se nouer entre les Républicains et le gouvernement pour essayer de ramener à elle une partie des électeurs de droite. On voit bien qu'elle s'est montrée très offensive depuis plusieurs jours et encore plus hier, puisqu'au fin de matinée, Éric Ciotti, le président des Républicains, Olivier Marleix, le patron du groupe LR à l'Assemblée, Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs LR, sont allés rencontrer Elisabeth Borne à Matignon pour discuter de certains points de la réforme, notamment les petites retraites. Et à l'issue de cette rencontre, Marine Le Pen a tapé assez fort en disant « bah voyez, ça y est, elle l'a pas dit comme ça, mais en gros, regardez les vendus des Républicains qui sont alliés avec le gouvernement ». Donc on sent qu'elle veut aussi profiter de cet accord politique, de ce consensus entre la droite et le gouvernement pour dire aux électeurs de droite, regardez, la vraie opposition à Macron, c'est le Rassemblement national.
C'est vrai qu'Olivier Perroux, elle joue la carte de Marine Le Pen, opposante numéro 1 à Emmanuel Macron, dans un tweet. Après avoir été élu grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron va désormais faire passer sa réforme des retraites grâce au soutien des LR.
Plutôt que de regarder ses sympathisants et ses militants, Marine Le Pen, je crois qu'elle regarde son électorat. Tout à l'heure, on parlait de Philippe Martinez qui disait « pas d'élu RN dans mes cortèges ». Je crois que c'est une erreur stratégique parce que d'une, on ne reconnaît pas un manifestant RN d'un manifestant LFI, je crois. Marine Le Pen, à l'élection présidentielle, c'est plus de 40% des ouvriers. Elle arrive première chez les ouvriers.
C'est le premier parti ouvrier de France.
Hein. C'est énormément d'artisans, de petits artisans aussi qui votent pour elle. Donc ça, elle a très bien ça en tête, Marine Le Pen. Et c'est une des raisons, j'ajouterai celle que vous venez d'expliquer, Guillaume, c'est l'autre raison pour laquelle Marine Le Pen, justement, elle est contre cette réforme. Alors, on expliquait justement 60 ans âge de départ, mais 42 ans. C'est la position du Parti Socialiste pendant de nombreuses années avant de bouger un peu, mais qui faisait partir à 62 ans. Donc, elle ne prend pas trop de risques sur ce qu'elle demande sur le fond. Mais en termes de stratégie, justement, elle cherche à non pas flatter son électorat, mais juste à le suivre comme il l'a suivi aux dernières élections présidentielles. Majorité d'ouvriers, d'artisans et de gens qui travaillent dans l'industrie seront contre cette réforme de retraite.
Hugo Capelli, ce qui est incroyable, c'est ce que vous disiez, le premier parti ouvrier de France, ce n'est plus la gauche, c'est maintenant Marine Le Pen, comme si celle qui défendait le fait de « tiens, on va vous aider à mieux vivre au quotidien », qui était autrefois le mantra un petit peu des partis de gauche, désormais, ça a basculé chez Marine Le Pen, en tous les cas, ce sentiment que c'est sa préoccupation.
Et c'est la crainte d'ailleurs de députés de la NUP. J'en cite un, ça va renforcer Marine Le Pen, cette réforme des retraites, qui va incarner l'apaisement face à la brutalité d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, la gauche est bien consciente qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est une concurrente féroce parce qu'elle arrive elle a piqué une bonne partie de leur électorat, alors que la gauche essaye tant bien que mal d'aller récupérer, notamment Fabien Roussel, qui a encore dit cette semaine sur la tribune qu'il fallait que tout le monde soit là, qu'il fallait aller chercher les ouvriers dans les usines, qu'il fallait aller dans les écoles, chercher tous les électeurs qui potentiellement n'étaient plus derrière la gauche, mais que derrière ce combat, c'était peut-être le moment aussi d'aller les rechercher, d'aller les retrouver, qu'ils reviennent en fait à la maison. Parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, effectivement, elle a réussi à convaincre une bonne partie des ouvriers, pour ne citer qu'eux, qui désormais sont derrière elle. Et la crainte de la gauche, c'est de les voir rassembler autour d'elle à nouveau avec cette réforme des retraites.
Alors Guillaume Daret, votre regard maintenant sur la droite. Alors, la droite qui est unie, parce que donc Éric Ciotti y soutient la réforme d'Emmanuel Macron. Je cite Bruno Retailleau, à l'Assemblée, une grande majorité des LR va voter cette réforme. Est-ce que cette droite qu'on disait sans boussole idéologique, etc., un peu perdue, là elle est unie et j'allais dire, elle n'est pas du tout radicalisée comme l'annonçait avec l'arrivée d'Éric Ciotti à la tête du parti.
Alors c'est là où je pense qu'il ne faut, c'est là d'ailleurs l'un de ses sinon opposants adversaires au sein de LR qui me le disait il y a quelques jours, il ne faut jamais sous-estimer Éric Ciotti. Et je pense que c'est vrai, derrière son image un peu caricaturale dont il a lui-même joué sur l'aspect purement sécuritaire ces dernières années, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus fin et malin politiquement. On a une droite qui est unie, une droite qui est beaucoup moins radicale que ce que certains attendaient. Et là où on a dit ces derniers mois ou ces dernières années qu'Emmanuel Macron était en train d'aspirer la droite, moi j'ai le sentiment qu'en matière de communication, la droite joue pas mal le coup parce que le sentiment qu'il y a ces derniers jours dans l'esprit des Français, c'est que c'est plutôt la droite qui est en train d'attirer Emmanuel Macron sur son terrain. Pourquoi ? Déjà parce qu'effectivement, comme Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans 5 ans, l'idée qu'Emmanuel Macron aspire la droite, bon oui, mais il n'y a plus vraiment d'intérêt électoral comme on pouvait le percevoir à quelques mois de la précédente présidentielle. et parce que je trouve qu'en matière de communication, notamment dans le JDD, Éric Ciotti et d'autres ces derniers jours ont plutôt bien joué le coup en posant les bases d'un accord en disant « Nous, de toute façon, pour voter la réforme, il faut que ça soit 64 ans. Pour voter la réforme, on veut la retraite minimum à 85% du SMIC, 1200 euros bruts. » Et clairement, c'est ce qui se retrouve derrière dans le projet de réforme. Et c'est vrai que donc, ça donne le sentiment que le gouvernement, l'exécutif, suit les Républicains sur ce domaine-là. Et derrière ça, il y a une volonté assez claire des Républicains de faire preuve, pour une fois, c'est pas mal pour eux, de faire preuve de cohérence. Effectivement, eux-mêmes vous le disent, ça fait des années qu'on défend un report de l'âge de légal à la retraite. On ne va pas être contre cette réforme du gouvernement. Et une volonté au travers de ce dossier de montrer, c'est leur angoisse absolue, c'est de ne plus apparaître aux yeux des Français comme un parti de gouvernement. Ah. Quand on ne gouverne plus depuis 2012, tous vous disent, on va passer finalement pour un parti contestataire, mais plus comme un parti qui est capable de gouverner. En soutenant cette réforme des retraites, en apparaissant, oui, en tout cas, comme responsable aux yeux d'une partie des Français, eh bien, on montre qu'on est capable de passer des accords, qu'on peut convaincre le gouvernement sur certaines de nos propositions et donc qu'on est en capacité de gouverner d'ici quelques années. Et
Olivier Perroux,
j'ajouterais même que le gouvernement, quelque part, va être un peu redevable. Il y a un autre texte qui va arriver ensuite, c'est le texte sur l'immigration. Et là, on sait qu'Éric Ciotti va vouloir passer certaines...
Ah, est-ce qu'il ne va pas se venger, là? Il va dire, je vous ai donné le point.
Je ne pense pas que ce soit une question.
Je vous ai donné le point sur les retraites. En revanche, je vais vous chercher des poux sur l'immigration.
D'ailleurs, ça agace beaucoup le gouvernement que cette surcommunication des LR qui dit dans la presse et ailleurs, c'est notre réforme. Absolument. C'est notre réforme qui est passée. Donc, évidemment, on va la voter. Merci Emmanuel Macron d'avoir pris dans notre texte. On vous inspire. Et c'est pour ça que le bouger, il est plutôt d'Emmanuel Macron vers la droite que l'inverse.
Alors qu'il est vrai qu'Emmanuel Macron, il faut lui reconnaître, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, avait parlé de 64 ans.
Oui.
Et depuis quelques jours, l'entourage du chef de l'État ne cesse de nous le rappeler, effectivement, en façon de dire non, mais c'est pas LR qui nous attire sur son terrain. Déjà, le chef de l'État, à l'époque, avait parlé de 64 ans.
Mais il ne faut pas se tromper. Ça peut paraître un peu dingue, mais ce qui se joue avec cette réforme des retraites, ça va être dans très longtemps, c'est vrai, mais c'est le début de 2027. C'est les reconstructions des blocs. Emmanuel Macron, les ministres de droite d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, savent que ça ne pourra pas se passer à gauche, parce que la gauche est en train de se refaire la cerise, pardonnez-moi l'expression. Donc il y a quelque chose qui se joue à droite. Éric Ciotti le voit très bien. Donc, on commence justement à faire un peu des gestes envers les uns et envers les autres. Et la loi immigration sera un peu la deuxième étape. Le gouvernement sera redevable justement sur ce texte.
A priori, ils ne la voteront pas.
Hugo,
sauf bouger.
Éric Ciotti aurait dit dans le bureau
sur l'immigration.
Aurait dit à Matignon, à Elisabeth Borne dans son bureau. Nous voterons les retraites, mais nous ne voterons pas les
retraites. Alors, nous voterons les retraites. Hugo Capelli, ça veut dire que le gouvernement ne passera pas par le 49-3. Ça veut dire, vous voyez, comme nous sommes des gens démocratiques et respectables. Mais du coup, est-ce que ça peut vouloir dire que les débats pourraient s'éterniser à l'Assemblée? Parce que j'imagine qu'Emmanuel Macron, il veut aller vite maintenant dans cette affaire pour ne pas laisser prise aux manifestations. Vous avez vu, donc, ça va être crescendo en plus. La CGT Pétrole annonce un jour, plus on avance en temps, plus la grève va gagner en volume.
Ah bah évidemment, le gouvernement espère que ça va aller vite et que cette affaire des retraites sera vite passée pour passer au prochain épisode. Le petit souci, c'est que tous les députés de la NUP ont prévu de déposer des centaines d'amendements. On parle même d'un millier d'amendements par député de la NUP. Donc il va falloir prendre un petit peu son temps pour voir les amendements les uns après les autres. Alors comme c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce sera sur un temps donné, c'est-à-dire que les débats prendront fin assez rapidement. Mais tout de même, il risque d'y avoir des débats au sein de l'hémicycle qui pourront durer tard. Alors peut-être moins tard que ce qu'on a pu voir pendant cet été, parce que la présidente de l'Assemblée nationale a dit que désormais, tous les soirs à minuit, ça s'arrête. Il ne faut pas croire que les retraites, ça va se faire en très peu de temps. En tout cas, la volonté des groupes de gauche, c'est de marquer les esprits à l'Assemblée nationale et se servir aussi de ce moment-là pour mobiliser les gens et leur dire, allez-y,
le combat à l'Assemblée et dans la rue.
Exactement, on va vous défendre à l'Assemblée. Marine Tondelier a dit, on va faire de cette Assemblée nationale une ZAD.
Une ZAD,
une zone à défendre. Alors, elle s'en expliquait après, bien évidemment.
C'est pas la meilleure réussite en matière de communication.
C'est vrai. Mais ça montre une certaine radicalité. On voulait une Assemblée diverse qui ressemble aux Français. Oui. On l'a. Hein.
Exactement.
Voilà. Guillaume Daret, le gouvernement, il attend, il va faire le dos rond en regardant ce qui se passe jeudi prochain, en espérant que...
Oui, après, c'est un peu chronique d'une mobilisation annoncée. Ce qu'on disait, eux, pareil, sur le fait qu'il y aura des manifestations classiques. On voit déjà la Première ministre qui évoque hier l'appel à la responsabilité envers les syndicats. Et il parie aussi sur le ras-le-bol des Français.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info et on se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end et à lundi. Merci beaucoup.